Exode 16, on va lire les 5 premiers versets. On a lu l'ensemble du chapitre tantôt avant la symphonie de la prière. Aujourd'hui, on va voir différents versets qui ont rapport à notre thème d'aujourd'hui dans le livre d'Exode. Donc, on ne va pas passer systématiquement à travers le chapitre 16, mais on s'introduit avec ça. Exode 16, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim. Ils arrivèrent, ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que ne nous sommes morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte quand nous étions assis près des pots de viande et quand nous mangeions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je voie s'il marchera ou non selon ma loi. Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. » On veut commencer, Seigneur, en venant à toi, parce que c'est la parole vivante, ta parole qu'on a entre les mains, mais c'est toi, Esprit du Dieu vivant, qui nous enseigne. Donc, fais silence dans chacun de nos cœurs, les distractions, les inquiétudes, les choses qui peuvent nous préoccuper maintenant. On veut tout mettre ça de côté et s'asseoir à tes pieds, notre divin maître. Merci que tu as la manne céleste pour nos cœurs. Merci que tu es la source d'eau vive. Et Seigneur, merci que tu es généreux, tu es fidèle et tu débordes de grâce et de vérité. Et donc, c'est plein de confiance et reconnaissant qu'on vient à toi comme ça, s'attendant de toi des choses merveilleuses, extraordinaires et sur mesure pour chacune de nos vies et pour notre Église. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Donc, on a lu juste là un peu l'introduction au chapitre 16. Et qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? C'est que la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a vu la mer Rouge. Waouh! L'action d'éclat, l'extraordinaire. Puis je dirais en fait du chapitre 7 au chapitre 14 dans Exode, c'est pas mal extraordinaire parce qu'il y a les plaies d'Égypte, puis là ensuite il y a la mer qui est séparée et tout ça. Puis Dieu, c'est évident qu'il était présent avec son peuple dans ces choses, mais aussi ici dans cet épisode qu'on vient de considérer, sa présence, mais patiente, continuelle, qui pourvoit à son peuple, mais je dirais, pas à l'extraordinaire du moment comme des délivrances du pays d'Égypte, mais j'appelle ça la tyrannie du quotidien. Tu sais, là, des fois, les journées là, qui se ressemblent et qui sont des fois plates et tout ça, ou on pourrait dire les déserts de nos vies, bien là aussi, hein, Dieu est là. Et Dieu nous a créés pour sa gloire, dans ces moments-là, la gloire de sa présence. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Créé pour la gloire de sa présence. Et donc, on passe de la gloire spectaculaire qu'on a vue la semaine dernière avec la sortie d'Égypte. Puis là, c'est vraiment la gloire de Dieu dans l'ordinaire, dans le train-train quotidien, le pain quotidien. Et savez-vous quoi? C'est précisément là, pas exclusivement, mais dans des moments comme ça, la chair veut s'immiscer. Et là, ici, on le voit, il murmure. Il murmure. Ils n'osent pas le faire directement contre Dieu. Ils le font contre Moïse et Aaron, mais Dieu prend ça personnel. Et quand on murmure contre les autres, contre nos frères et sœurs, contre nos circonstances, Dieu le prend personnel. Parce que c'est qui dirige les circonstances? C'est qui dirige les gens dans nos vies? C'est Dieu. Donc le murmure est dirigé contre Dieu au bout du compte. Regardez avec moi, tournez juste dans chapitre 13, versets 21 et 22. toujours en introduction, là. Donc, on peut voir ici, verset 13-21, « L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider par le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. » Dieu était là, dans la nuée, présent auprès de son peuple, au milieu de son peuple. Et ça, c'était une direction quotidienne. Il y avait aussi une protection, parce qu'on a vu, c'est aussi c'est cette nuée qui se tenait entre les Égyptiens et Israël lorsqu'ils voulaient les attaquer. Et donc, Dieu les dirigeait dans l'hostilité du désert. Un désert, ce n'est pas un endroit où il fait bon vivre. C'est un endroit qui a peu de ressources. C'est un endroit où il y a des chaleurs accablantes. Il n'y a pas d'eau. Donc, je dirais que pour nous, on peut faire le parallèle. On vit d'une certaine façon dans le désert de ce monde, où est-ce qu'il y a la mort, où est-ce qu'il y a plein de citernes d'eau qui sont crevassées et qui ne retiennent pas l'eau. Et gloire à Dieu, quand on connaît l'Éternel, la source d'eau vive, ça fait toute la différence. Et ce qu'on voit ici, c'est sa fidélité à être avec nous dans ces moments-là. Et je dirais que comme Israël, c'est facile de passer le chapitre 15, c'est un chapitre de louange, le cantique de Moïse. Ils louent l'Éternel parce qu'ils ont vu les actions d'éclat. Gloire à Dieu, il nous a délivrés de nos ennemis qui voulaient nous tuer. C'est facile de passer rapidement de cette louange à la peur, la plainte, les murmures, comme on le voit ici dans le chapitre 16. C'est une tendance humaine d'oublier, de négliger comment la présence de Dieu est quelque chose de précieux et de glorieux. La présence de Dieu, pas juste dans la délivrance de nos grands ennemis puis les grandes choses, comme on l'a vu dans la semaine dernière, mais nous délivrer de nous-mêmes, sa délivrance de nos tendances à être ingrats, à être oublieux. Et donc, c'est ce qu'on voit. Et on va voir ça à travers trois glorieuses provisions. Comment Dieu délivre dans ces moments-là? Il pourvoit par sa présence. Trois glorieuses provisions de la présence de Dieu. D'abord, puis là, évidemment, on ne pourra pas tout lire. On a lu le chapitre 16, mais on pourrait aussi considérer le chapitre 17. Sa provision physique. Qu'est-ce qu'on voit dans les chapitres 16 et 17 de l'Exode? Bien, dans le chapitre 16, on l'a vu, c'est la manne. Qu'est-ce qu'on voit dans le chapitre 17? L'eau qui sort du rocher. Nous, on triche un peu, je veux dire, on est... Après tous ces événements-là, on a le Nouveau Testament. Donc, on sait que tout ça, ça nous pointe à Jésus. C'est sorti dans le temps de prière tantôt. Jésus, c'est le pain qui est venu du ciel. Puis, il est aussi la source d'eau vive. Donc, tout ça nous pointe à Jésus. Puis, j'aimerais, parce que sa provision physique, j'aimerais prendre le temps d'expliquer ici. On peut dire, ah, mais Jésus, c'est pas, ça parle là très de provision physique. C'est pas comme mon pain que je mets du beurre dessus le matin. Bien, Dieu a fait toutes sortes de promesses dans l'Ancien Testament, mais il est venu à nous. Jésus est la provision, oui, physique, il est devenu un homme, il est venu à nous, il a touché les gens qu'il rencontrait, il a mangé avec eux, il a partagé, puis on voit ça. Et donc, oui, c'est sa provision physique, mais avec les plus grandes et les plus belles conséquences spirituelles. À cause que Jésus est venu, qu'il a pris un corps, qui est venu à nous, plein de grâce et de vérité, maintenant, on a la plénitude des promesses de Dieu. Ce qu'il y avait de façon temporaire et en attendant dans l'Ancien, nous, on en a la plénitude parce que Dieu est venu à nous dans la personne de Jésus. Donc oui, je pourrais vous parler de Dieu qui pourvoit nos besoins dans le quotidien, le manger, le boire, puis on ne prend pas ça pour acquis parce que c'est vrai que ça fait partie de ce que Dieu fait dans notre vie, puis on en est reconnaissant. Mais j'aimerais surtout regarder l'ultime manne qui est venu du ciel, comme dans Jean 6. On a vu ça, vous rappelez, l'année dernière, dans notre série dans Jean. Et aussi, dans Jean aussi, Jean 4, Jean 7, Jésus qui est la source d'eau vive. Hein? Et ce type de provision, Dieu qui pourvoit, puis en passant, ça a sorti aussi dans le temps de prière, Dieu, à tous les jours, il y a du pain à nous donner. Oui, Jésus est le pain, mais Jésus veut se donner à nous. À tous les jours, pour nourrir nos cœurs. Il veut qu'on s'abreuve de lui à tous les jours. Puis il est constamment disponible. C'est la provision infinie. Et C'est pour ça, il faut qu'on comprenne la vie chrétienne c'est Jésus, là, mais la foi chrétienne, c'est d'abord et avant tout recevoir. Je pose ça comme question piège des fois, là. Hey, la chrétienté, c'est-tu d'abord par rapport à donner ou à recevoir? Puis là, les gens sont pas trop sûrs. Tu sais, une question piège, tu veux pas avoir de la foi devant tout le monde. Mais on peut dire, ben, les chrétiens, c'est généreux, ça donne, ou en tout cas, ça devrait, n'est-ce pas? Oui, mais c'est pas le point de départ. La chrétienté, c'est d'abord recevoir. Ça commence avec recevoir le don de Dieu, sa vie en Jésus, pour le pardon des péchés et tout ça. Mais même quotidiennement, je ne pourrais pas donner, déborder de Jésus dans ma journée si d'abord je ne viens pas m'abreuver à lui, si je ne reçois pas sa provision quotidienne, le pain quotidien. Et donc, qu'est-ce que tout ça nous enseigne? Ça nous enseigne la dépendance totale que nous avons envers Dieu. Pas partielle, totale. Jésus le dit lui-même, la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Si je veux marcher par l'esprit, si je veux une vie qui porte le fruit de l'esprit, je n'ai pas le choix que de dépendre de Dieu comme étant mon pain. Et aussi, le Dieu qui est fidèle a toujours abreuvé, étanché de la soif. Jésus qui a dit à la femme samaritaine dans Jean 4, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et Dieu est fidèle à tous les jours pour nous laisser nous abreuver à lui la source d'eau vive. Il ne nous laisse pas nous dessécher. Si on se dessèche, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas la provision. C'est parce qu'on n'est pas allé prendre la provision. Puis même que Dieu vient et prend l'initiative de nous rencontrer dans notre solitude, notre misère, notre opprobre, comme c'est illustré ici dans le désert. Jean 7 nous dit, « Le dernier jour, le jour de la grande fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et il y a une gloire là-dedans qu'on voit ici avec les sources d'eau vive. Dieu nous a rendus participants de sa nature. Non seulement il nous donne de l'eau vive, mais par son esprit qui vit en nous, on peut déborder de cette eau vive, de cette vie, du fruit de l'esprit qui vit dans chacun de ses enfants. Puis, pour y aller en termes de nourriture, à tous les jours, comme ça dit dans Timothée, on peut se nourrir des paroles de la foi. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as suivie exactement. Est-ce que tu peux dire que tu es rassasié? Ici, il dit, on avait à satiété quand on était en Égypte. Ça, c'est un beau mensonge. De penser que le monde a mieux à offrir que Dieu. Le monde, le péché, peut amener un plaisir, une certaine satisfaction pour un temps. Mais ça ne dure pas, puis ça finit tout le temps, non seulement à ne pas nous satisfaire, mais à nous laisser pire qu'on était auparavant. C'est pas un bon deal. On est perdant. Mais avec Dieu, c'est l'inverse. Écoutez ce que David dit. « J'ai été jeune et j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Toujours il est compatissant et il prête et sa postérité est bénie. Évidemment, c'est vrai dans le domaine physique que Dieu pourvoit nos besoins, mais aussi Dieu pourvoit aux besoins de notre cœur. À tous les jours, il est fidèle au rendez-vous. Et c'est important de le rappeler à nos cœurs, comme Jérémie. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. C'est bon de repenser ça en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Comme c'est beau, Lamentation, hein? Donc ça, c'est la provision physique de Dieu. Dieu qui est venu à nous en Jésus, le pain et l'eau. Mais on a aussi sa provision spirituelle. Et on a lu dans le chapitre 13 la nuée qui était là pour guider le peuple de jour et de nuit. Sa provision spirituelle. La deuxième provision, c'est la provision spirituelle. Et c'est celle de guider son peuple. Il ne laissait pas comme ça aller dans le désert, n'importe comment. Non, il dit, OK, on arrête ici, là, on va là. OK, Dieu s'occupait de les diriger. Mais comment Dieu guide? Il n'a pas juste donné une carte et un livre de texte. Non, c'est lui. Dieu, c'est lui le guide. Le guide, c'est une personne. C'est relationnel. C'est pas juste des choses qu'on apprend et qu'on lit dans un livre. C'est une personne en qui on se confie. Une personne qu'on découvre, puis comme ça, on apprend à être, à se laisser guider. Donc, la présence de Dieu est notre guide. Lorsque Dieu est présent dans notre vie, il va nous guider. Il va nous dire d'arrêter là, de continuer là, de changer de direction pour aller par là. Notre rôle, c'est simplement d'être à l'écoute. Et ça aussi, ça nous enseigne la dépendance envers Dieu. Parce que la journée d'hier est passée. Merci Seigneur, tu m'as dirigé. Mais aujourd'hui, j'ai besoin d'une façon nouvelle et fraîche d'être guidé par toi. Je m'en remets à toi. Je ne veux pas m'appuyer sur ma propre sagesse. Mais je veux te reconnaître dans toutes mes voies. Donc, c'est ça la dépendance envers Dieu. Puis la fidélité de Dieu, ça c'est le côté divin, dans lequel on est appelé simplement à demeurer. Hein, Jésus a dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » OK, merci. Content. On voit ici le besoin de développer l'habitude. Quand on parle de demeurer, on parle d'une habitude, c'est-à-dire l'habitude de rechercher la direction, la volonté de Dieu. Ou on pourrait dire rechercher sa présence. Dieu, t'es-tu? C'est-tu toi qui es à l'œuvre là-dedans? C'est-tu toi qui es en train de faire ça? Ou c'est moi qui veux ça, c'est mes voix, c'est ce que moi je veux? Est-ce que c'est ma volonté, Seigneur, ou c'est la tienne? Parce que Dieu nous dirige là où il est, là où il travaille, là où il est déjà à l'œuvre de façon rédemptrice. Et des fois, c'est évident. Une des raisons que j'aime tellement le ministère de prison, c'est que souvent, je m'assis avec quelqu'un, puis là, je vois, waouh, Dieu est à l'œuvre. Tu sais, c'est comme, je suis un spectateur de, tu sais, parce que ça, c'est tellement un trait typique de ceux que je vois. Tu sais, quand tu es en prison, mettons que ça change un petit peu tes plans. Comprenez? Ben, ceux qui viennent me voir souvent, c'est qu'ils ont pris cet arrêt-là, puis là, ils se posent des questions par rapport à Dieu dans tout ça. C'est pour ça que je leur dis, hey, Dieu, il est bon. Il t'arrête dans ton autodestruction. Il t'arrête dans la voie de la mort pour que tu le considères, lui, la vie. Fait que, tu sais, ça, c'est quand même évident, tu sais, là. Bon. Mais des fois, c'est pas toujours aussi évident. Des fois, dans nos relations avec d'autres, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas? Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas? Dieu, c'est-tu toi qui veux ça? Puis bon. Des fois, c'est pas si évident à différencier ma volonté versus celle de Dieu. Ça se peut-tu? Des fois, on a le guide, mais on n'est pas trop sûr. Est-ce que je suis Dieu ou je suis mes pensées, ma volonté, mes émotions? Alors, la question qui s'impose face à ça, comment reconnaître et différencier si c'est Dieu vraiment qui est à l'œuvre ou si c'est moi qui prends les devants? Bien, je suis content que vous posiez la question, parce que ça va nous amener vers le troisième point. Comment qu'on fait pour différencier? Bien, c'est ce qui nous amène à sa provision sainte. Non seulement sa provision physique, sa provision spirituelle, mais on termine avec sa provision sainte, et ça va répondre à la question que je viens de poser. Exode 33. Exode 33. Comment différencier entre la volonté de Dieu versus la mienne? Entre les plans de Dieu dans ma vie versus les miens. Ça vous arrive-tu de vous poser ce genre de questions-là? C'est important, n'est-ce pas? Hein? On dit comme Jésus que ta volonté se fasse et non la mienne. Quand on est un enfant de Dieu, c'est ce qui est dans notre cœur. Mais sa provision sainte est ce qui répond à ça. Regardez chapitre 33, toujours dans Exode, versets 15 et 16. On va commencer à 14. « L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Le troisième point, c'est le point le plus important. On parle de la présence de Dieu. Et ici, on ne parle pas de n'importe quelle présence, on parle de la présence distincte, sainte de Dieu. Moïse, ici, répond à la question qu'on s'était posée. Comment je peux savoir si c'est de moi, si c'est de Dieu? Comment faire la différence? Comment être certain? Puis d'ailleurs, Moïse se le demandait. Hein, comment je vais être certain que c'est vraiment toi, là, Seigneur, qui nous dirige? La réponse est quoi? On l'a ici. La distinction. Et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Comment? Parce que les autres peuples, ils n'ont pas l'Éternel qui marche avec eux autres. Les autres peuples, ils n'ont pas le Dieu vivant, unique, trois fois saint, qui est leur guide. Donc, c'est ça la distinction, l'unicité, ou pour prendre un mot qu'on a pris l'autre jour, l'autreté de la présence de Dieu. Le sens fondamental de saint, ça veut dire qu'il est à part, qu'il est dans une catégorie à part. Et donc, sa provision sainte, c'est une provision qui n'est pas dans ce monde. Savez-vous quoi? Dieu, là, son amour, là, est extraordinaire. Il n'y a pas d'amour comme l'amour de Dieu. Regardez, là, Dieu qui a tant aimé le monde, qui a donné son fils unique. Il n'y a pas ça dans le bouddhisme, il n'y a pas ça dans les philosophies humaines, il n'y a pas ça dans... Il y a juste Jésus qui est Jésus, puis qui est la provision de Dieu. C'est saint! Ça, c'est juste un exemple, l'amour de Dieu. Sa bonté, sa justice... Sa colère, toutes ces choses-là sont uniques, sont saintes, sont dans une catégorie à part. Et Dieu, lorsqu'on est son peuple, lorsqu'on est son enfant, Dieu nous communique ces choses. Et ça aussi, c'est saint. Parce que le fait que Dieu nous parle, nous communique les choses de son cœur, qu'on peut lire la Bible, mais qu'on la comprend comme on ne peut pas comprendre sans l'Esprit de Dieu, ça c'est saint aussi, là. OK? Parce que la Bible, c'est pas juste un livre de même qu'on regarde et on a des instructions. C'est un livre vivant qui, l'auteur, est celui qui nous explique aussi les Écritures. Le même esprit qui a inspiré les Écritures est celui qui nous guide dans toute la vérité et qui nous illumine d'une façon très sur mesure, quotidienne, bénéfique, selon nos besoins, ce que lui-même a inspiré. Pourquoi? Parce que, à travers tout ça, Dieu nous communique, Dieu d'une façon sainte, il pourvoit, pour nous amener là où il veut que nous soyons. Et pas juste physiquement, là, spirituellement, même dans nos pensées, notre volonté, nos émotions. Donc, il nous amène là où il veut et aussi à la manière qu'il veut. Et souvent, c'est là qu'on boque. Ah, Dieu, je veux faire ta volonté, mais comment ça tu marches de même? Comment ça que tu as pris cette circonstance tellement désagréable, cette personne tellement, désagréable ça aussi, je ne peux pas trouver un autre synonyme, mais c'est Dieu qui décide. Sa volonté, c'est non seulement il nous amène là où il veut, mais il nous amène aussi comment il veut. Avec Israël, c'était 40 ans dans le désert. Il aurait pu mettre juste 2 ans. Non, il aurait compris leur leçon peut-être. Non, Dieu il avait décidé ça, puis c'est parce que Dieu est Dieu. Mais pensez-y, là. Quelle est la marque distinctive des enfants de Dieu authentiques, là? On ne parle pas des religions qui se disent chrétiennes, non, non. Les enfants de Dieu, là, OK? Toutes dénominations confondues. L'Église du Dieu vivant, là. C'est quoi la marque distinctive quand on compare aux autres religions ou aux philosophies humaines? C'est la présence de Dieu, non seulement au milieu de nous, mais en nous. L'Esprit du Dieu vivant qui vit. On est scellé du Saint-Esprit qui vit dans chacun des enfants de Dieu. Et l'Esprit, que lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, il nous révèle le Fils, il nous révèle ses voies, il nous révèle ses pensées. Puis on peut le connaître d'une manière qui est impossible autrement. C'est pas parce qu'on est plus intelligent que d'autres. En fait, la Bible même dit que Dieu va prendre des gens qui sont... aux yeux du monde, des gens pas intelligents, qui ne sont pas nécessairement les plus hauts dans la société, puis dans l'estime des hommes. mais que Dieu va se glorifier en prenant des gens comme ça, qui n'ont pas nécessairement ce que le monde va regarder comme étant la grandeur et tout ça. Par ailleurs, là, il faut comprendre, on parle de différent, d'être distinct. Le but, ce n'est pas d'être différent et d'être distinct. Ça serait un piège de légalisme ou de la chair. Là. Ah, moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollo, moi, je suis de gang-là, moi, je suis un chrétien comme ci. OK, le but, ce n'est pas d'être différent. On va le voir dans un instant, le but, c'est Dieu. Mais je vous l'illustre avec Paul. Paul, quand il est devenu chrétien, écoutez ce qu'il dit lui-même sur cette expérience au début de sa vie chrétienne, dans Galates 1, 18 à 24, 3 ans plus tard, il raconte son expérience conversion et après conversion. Donc, 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, ça c'est Pierre, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun des autres apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de Syrie et de Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait de détruire. » Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Quand on voit ici, Paul n'a pas essayé, d'expression québécoise, de fitter avec son nouveau groupe d'appartenance, les chrétiens. Il n'a pas là à dire, ah ben là, je vais être différent comme les chrétiens sont différents. Non, il est allé à Jérusalem, il n'a pas vu plus de monde que ça. Il n'a pas essayé de s'imposer à ce groupe-là. Il en a vu deux quand il est allé à la place, là, le berceau de la chrétienté à Jérusalem. Non. Ce qui a produit le résultat de glorifier Dieu au sujet, tu sais, le peuple dit, waouh, il nous persécutait, maintenant il prêche cette fois-là. C'est quoi qui a produit ce résultat-là? C'est la présence de Dieu dans la vie de Paul. Il n'y avait pas à être vendeur. Il y avait l'authentification par l'Esprit de Dieu qui vient en lui. Il n'y avait pas rien à essayer de vendre comme salade. Il était un enfant de Dieu. Ce qu'il était de par la grâce de Dieu, c'est ce qui le distinguait. Il n'essayait pas d'être différent. Il était différent à cause que Dieu vivait en lui. Comprenez-vous? On n'a pas besoin d'essayer d'être différent. On l'est quand on est un réel enfant de Dieu. Maintenant, on est appelé à vivre cette différence, puis à la vivre pleinement, par la foi, en faisant confiance à Dieu dans nos vies. Mais le but, ce n'est pas d'être différent. Et le secret de l'influence de Paul, dans le contexte de ce qu'on vient de lire, son inclusion là où est-ce qu'il était rejeté, c'est parce que Dieu était en lui, le peuple de Dieu l'a reconnu. « Hey, c'est un frère! » Peut-être qu'ils ont dit « c'est un brodeur! » Peut-être, je n'ai pas vérifié dans le grec, là, mais... Donc, on rappelle que le but, ce n'est pas d'être différent, le but, c'est Dieu. Puis lui, il fait la différence. Le but, ce n'est pas d'être différent, le but, c'est Dieu, puis lui fait la différence. Vous voulez faire une différence autour de vous? Essayez pas de faire une différence. Laissez Dieu, qui vit en vous, vivre librement sa vie, puis lui va faire une différence. Encore là, je reviens avec l'exemple de prison. Excusez, là. Je suis pris là-dedans. Quand j'ai commencé le ministère de prison, je voulais faire une différence. Puis avec des bons motifs, puis tout ça. Puis je pense, je veux dire, Dieu m'a utilisé, puis Dieu a fait des choses extraordinaires. Ça fait 10 ans que je fais le ministère de prison. Mais les choses ont changé d'une façon quand même majeure. Lorsque, après l'épisode d'avoir eu le 2022, une pause, où est-ce que là, vraiment, Dieu m'a changé, puis la présence de Dieu dans mon cœur, dans ma vie, a pris une place tout autre et OK. Mais savez-vous quoi? J'ai pas essayé d'être différent quand je suis retourné. J'ai pas essayé une nouvelle approche et tout ça. Ben, en tout cas, j'ai pas voulu être pragmatique, disons de même. Mais Dieu, en moi, puis toute la façon qui a changé ma façon de voir la vie au complet, ça l'a fait une différence. J'ai pas essayé de faire une différence. C'est Dieu qui a fait une différence, puis savez-vous quoi? Je vois que c'est plus pareil maintenant. Pas à cause de moi, à cause de Christ qui vit en moi. Puis savez-vous quoi? Probablement qu'ici, là, il y en a qui peuvent se relier à ça. L'impact autour de vous autres, puis ça. Enfin, voyons, je vais faire une différence, Dieu, j'aimerais ça te faire connaître. Puis là, tu sais, Dieu travaille dans votre vie, puis il vous change, puis tout ça, puis souvent, oui, à travers l'épreuve, à travers différentes choses. Puis c'est drôle, l'impact autour C'est pas vous qui essayez d'être différent puis d'avoir une nouvelle approche, c'est Dieu qui vous change. Puis ça change complètement l'impact. Pourquoi? Parce que c'est pas vous. C'est Dieu. Puis c'est pas mal mieux. Dieu fait le meilleur job que nous autres. Amen. Amen. Ben là, ça m'amène à cette application. Avez-vous des bottes à cap? Parce que je vais piler sur des orteils.
Des pantoufles.
Si vous avez des pantoufles, c'est-tu en Fentex, en broche à poule, là? OK. Et j'ai presque fini, mais je veux cette application-là qui est importante. Dieu fait la différence, la gloire de sa présence, c'est ce qui nous sépare du reste du monde. OK, on est d'accord là-dessus. Puis c'est ce qui nous sépare aussi même des chrétiens charnels, comme on dit avec les Corinthiens. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollo, OK. Quand on marche par l'esprit, on est plus dans ce domaine-là. Mais voici ce que je veux dire. C'est important, je dirais, c'est vital de rechercher la plénitude de la présence de Dieu. Dieu, je ne veux pas être à moitié, je ne veux pas être irrésolu. Je veux la plénitude de ta présence, je veux me donner pleinement à toi, pas de demi-mesure, au complet. Savez-vous pourquoi on a de la misère avec ça? Voulez-vous que je vous le dise? Bon, là, j'hésite, là. Je pense, je suis plus sûr de mon message. Lorsque, tu sais, on veut tous la plénitude de la présence de Dieu, on veut toute la plénitude de la bénédiction, des fruits que ça donne, n'est-ce pas? On veut tout ça. Mais le prix de la foi, c'est parce que Dieu, là, quand il veut manifester sa présence, lorsqu'il veut l'amener dans notre vie, le chemin qu'il prend, puis ça, c'est pas la première fois que j'en parle, là, il va permettre à la mort d'agir pour que sa vie puisse agir. Là, je vous lis 1 Corinthiens. Je vais lire la version un peu plus extensionnée. « Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. » Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive, tout ce processus de la mort qui agit en nous pour la vie qui agit en vous, tout cela arrive à cause de vous afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu et les actions de grâce d'un plus grand nombre. Dieu veut que sa présence fasse éclater les louanges de son peuple, que sa gloire soit célébrée comme ça par son peuple. Mais c'est important de comprendre que la seule voie vers la manifestation de cette vie, de la plénitude de la vie de Jésus qui se manifeste dans la vie de ses enfants, c'est d'accepter le fardeau, la lourdeur de la mort. La mort relationnelle, la mort aussi par rapport à mes péchés, mon passé, je suis mort à ces choses, je suis mort au péché. D'accepter ça, d'accepter d'avoir la vision de ma vie qui est celle de Dieu, puis même relationnellement d'accepter de souffrir pour le bien puis le péché des autres. Ça aussi, c'est un qui n'est pas très vendeur, là. Mais c'est biblique. C'est ce que Jésus constamment faisait. Mais tout ça, pourquoi? Afin de jouir, de bénéficier et de manifester la vie surnaturelle. Le passage de un mène à l'autre. Donc, c'est la récompense de la foi. On paye d'abord, on subit la mort, mais on a la récompense de la foi qui est la vie surnaturelle. C'est l'inverse du monde. Le monde va dire, tu vas avoir-tu, ou la chair, ou la chrétienté charnelle, tu vas avoir tout de suite tout ce que tu veux. Puis ça va être super, puis là, tu vois. Mais on paye par après. J'écoutais une vidéo dernièrement qu'il y a des églises qui sont super, là. Tu sais, là, hey, let's go, on fait rentrer le royaume de Dieu, puis on se plonge dans la réalité, puis là, ils sont tous à fond les manettes pour tout. Il y a des gens, ils ont des burn-out, ils sont découragés, puis souvent, savez-vous quoi? Ils abandonnent Dieu parce qu'ils disent, je me suis tout donné de même, puis ça ne donne pas les résultats escomptés. Non, parce que c'est la chair. Ça peut avoir tout l'éclat du tape à l'œil, mais la chair, ça mène à rien, puis ça mène en fait à la mort. Et je dirais qu'il n'y a rien qui ne manifeste plus la gloire de la présence de Dieu que lorsque son peuple accepte de passer par ce processus qui est répétitif, qui est continuel, de la mort vers la vie. La mort à soi vers la vie de Jésus. La mort à mes ambitions, à ses plans, à ce que lui veut. Et c'est du bon fruit. Et donc, qu'est-ce que tout ça nous enseigne si on veut tirer les leçons du livre d'Exode ce matin? Sur la présence de Dieu, la gloire de la présence de Dieu. Ben, connaissez-vous Colossiens 2, 9 et 10? Puis on l'a chanté tantôt. « Car en lui habite toute la plénitude de la divinité, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » On a la présence de Dieu en nous, puis avec nous, dans toute sa plénitude. Autrement dit, Dieu a déjà tout pourvu. Provision physique, spirituelle et sainte. Ça veut donc dire qu'on peut tirer notre identité de ces choses. C'est-à-dire, comment je ne m'identifie pas par mon travail, par mon occupation, mais parce que Dieu a fait de moi. Je suis un enfant de Dieu, je suis accepté, je suis pardonné. Christ est ma vie. C'est ça mon identité. C'est ça aussi qu'on peut voir. Dieu a pourvu, je n'ai plus besoin de rien. J'ai plus besoin d'essayer de trouver mon identité, mon appartenance ailleurs. Et je n'ai pas non plus à me laisser leurrer en prenant mon appartenance dans mes circonstances, dans les déserts de ma vie. Parce que des fois, on va s'approprier ça, ça va mal, puis on prend notre identité là-dedans. On va prendre... Ah, c'est ce qui m'arrive. Puis là, on est tellement pris par ces choses qu'on se les approprie. Même chose avec le passé, l'esclavage en Égypte. Ah, moi, j'ai tout le temps été quelqu'un d'amer. Ça, c'est prendre notre péché, notre passé, comme étant notre identité actuelle. Savez-vous, pour un chrétien, une chrétienne, c'est vivre du mensonge de faire ça. Parce qu'on prend autre chose que Jésus comme notre identité. C'est pas qu'on le renie, c'est vrai qu'on peut avoir lutté toute notre vie avec l'amertume. On fait pas semblant que ça n'existe pas. Mais de grâce, ne le prenons pas comme notre identité quand Dieu nous en a donné une nouvelle. Toute bonne, toute vivante, toute fraîche. La façon la plus simple, c'est comme si quelqu'un disait « Bonjour, je me présente, je suis cancer du pancréas. » On se présente pas mal, je veux dire « Bonjour, je me présente, puis hey, je lutte avec le cancer du pancréas. » OK? C'est une chose qu'on a, on ne va pas renier que ça, c'est là, mais ce n'est pas notre identité, ce n'est pas ce qu'on est. Le péché, c'est une réalité de la vie, puis c'est poche, là. Mais ce n'est pas notre identité. Dieu a fait de nous des nouvelles créatures. Et donc, Dieu, par sa présence, qui pourvoit en toutes choses, nous donne la grâce de sa vie, de sa direction, de sa liberté, de sa vérité, chaque jour de notre vie. Et donc, enfant de Dieu, est-ce que tu peux dire que tu recherches de tout cœur, à chaque jour, la bénédiction de sa présence? Est-ce que tu acceptes de payer le prix de la bénédiction de sa présence? La plénitude de sa présence dans ton pèlerinage ici sur terre? Écoutons ce que Pierre a à nous dire là-dessus. « Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Ils glorifient Dieu de voir la présence de Dieu dans votre vie, la provision de sa présence. C'est la seule façon de pouvoir expérimenter et jouir de la réalité des versets que je viens juste de lire. Et j'ai une question maintenant pour ceux qui ne sont pas ou qui ne sont peut-être pas certains encore d'être en Jésus, pardonnés, nés de nouveau par l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu recherches la délivrance de la présence de Dieu? Recherches-tu la délivrance de sa présence? Je reviens avec Paul, mais pas dans le temps qu'il s'appelait Paul, avant. Comment il s'appelait Paul avant d'être d'être Paul, Saul de Tarse. Et tant qu'il n'a pas été confronté, arrêté par la présence manifeste de Dieu sur le chemin de Damas, puis il va dire que ce n'était pas subtil, là. Dieu l'a vraiment arrêté sur son chemin, mais il était perdu. Même s'il était très religieux puis très zélé, il était quand même perdu. Le salut, c'est lorsque Dieu se manifeste à nos cœurs. Peut-être pas, attendez-vous pas nécessairement à voir une grande lumière qui va vous arrêter sur le chemin et tout ça, là. Si une lumière rouge, ça veut dire vous arrêter, là, OK? Mais si vous êtes sur votre cheval et vous voyez une grande lumière, vous me le direz, là, c'est pas nécessairement commun. Mais la conviction du Saint-Esprit, par contre, et ça, on en a parlé hier en théologie, la conviction du Saint-Esprit, ça nous arrête. Lorsque Dieu se présente à quelqu'un, on ne peut pas rester indifférent. On peut repousser, on peut résister à la grâce de Dieu, mais certainement qu'il va avoir une œuvre de conviction. Je vous l'illustre et je termine avec ça. Avec Jésus qui était à Jéricho. Et lorsqu'il sortait de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant et aveugle, était assis au bord du chemin. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et il se met à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi! » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi! » Et j'aime verset 49, « Jésus s'arrêta et dit appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je fasse? » « Rabouni, ça veut dire maître, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Ici, c'est une belle image du salut. Il voit son besoin. « Aie pitié de moi, au secours! » Il crie à Jésus. Puis Jésus s'arrête. Est-ce que Jésus s'est arrêté pour toi un jour? Puis, est-ce que tu lui as fait connaître ton besoin? Il dit, c'est quoi? C'est quoi qu'il y a? Puis, on n'aura pas de Dieu si simplement on ne fait pas juste parce que Dieu est capable, il sait ce qu'on a besoin, mais il veut qu'on lui dise, j'ai besoin d'être sauvé, j'ai besoin d'être réconcilié avec toi. Puis, lorsqu'il s'est qu'il a répondu comme ça à l'appel de Dieu, il s'est levé d'un bond puis il a jeté son manteau. Ses attaches. Il y a une autre image de ça. Il lisait ça dernièrement dans le livre des Actes. Il y a un bateau, il y a une grosse tempête. Puis là, le bateau est en péril. Puis c'est Paul qui a dit, ou c'est le capitaine, en tout cas, il a dit, « Coupez les cordes des bateaux. » Jésus, c'est comme le bateau. Puis, tu sais, les moyens de se sauver nous-mêmes puis de s'en sortir. Dieu, il dit, « Non, coupe toutes les cordes de ce qui t'attache ici à une confiance pour essayer de te sauver toi-même. » Puis, mets ta confiance uniquement en moi. C'est l'appel ce matin. Est-ce que Jésus s'est arrêté pour toi? Puis est-ce que tu l'as reçu comme ton sauveur? Est-ce qu'il est l'unique objet de ta confiance pour le salut de ton âme? Ça, mes amis, lorsque ça arrive, on n'est plus pareil. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, que tout le monde ici puisse répondre à l'appel que Dieu nous envoie par ce message qu'on a vu aujourd'hui. Et qu'il en ait toute la gloire. Merci Seigneur pour ce temps ce matin. Tu es le Dieu de gloire et merci que tu es présent, non seulement parmi ton peuple, mais dans tes enfants. Et aussi, tu te fais connaître, tu te manifestes à ceux qui ne te connaissent pas encore. Je le vois semaine après semaine. Et Seigneur, merci que tu es celui qui connaît les cœurs, non seulement de ceux ici, mais peut-être ceux qui vont écouter plus tard ce message. Seigneur, ma prière, c'est que tu révèles ton Fils Jésus au cœur de ceux qui ne te connaissent pas encore. Et pour nous, ton peuple, Seigneur, on veut chérir ta présence au point d'être prêt à en payer le prix. Peu importe c'est quoi. Parce que comme il y a un chant qui dit « T'aimer Jésus, te connaître. » Que te connaître, te découvrir, grandir dans la grâce et la connaissance, ça c'est notre plus grand désir. Comme dans le psaume 27, j'ai un désir, une chose que je demande ardemment à Dieu, c'est d'être dans sa présence tous les jours, Seigneur, qu'on désire ta présence et qu'on déborde de ta présence. Merci, Seigneur, que tu es le pain, tu es l'eau vive et tu donnes en abondance. On peut venir à toi, tu es infini. Nos besoins pour la grâce, l'amour, l'acceptation sont infinis et ils sont comblés en toi. Merci pour ça, Seigneur. Oui, merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen.